C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 137 du 6 avril 2026, en ce lundi de Pâques. Au programme de cette émission, service de santé queer et en français, un défi au Canada, à l'extérieur du Québec, et ça inclut les soins d'affirmation de genre. Interling, ben oui, c'est le jour de la marmotte, à nouveau en situation précaire et pourrait devoir fermer son service d'écoute la nuit. Et les dangers de l'orthorexie et aux pressions liées au culte du corps parfait, particulièrement dans nos communautés, et les hausses de loyer, un autre défi pour la diversité sexuelle et de genre.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot. Transcontinent queer, des nouvelles d'un bout à l'autre du Canada.
Eh bien, c'est le retour du segment Transcontinent queer, des nouvelles queer du Canada francophone. On rejoint donc Amé Simard, responsable du développement communautaire et chargée de projet pour le comité franco-queer de l'Ouest. On rejoint Amé, si je comprends bien, à Vancouver, en Colombie-Britannique. Salut Amé!
Allô Denis Martin, merci de m'accueillir.
On est bien content que tu sois là. À Toronto, ben, c'est une première, Georgelie Berry, qui est coordonnatrice des services d'établissement des nouveaux arrivants chez Franco-Queer. Bonjour Georgelie.
Bonjour Denis et bonjour à tous, ça fait plaisir d'être là.
On est bien content de te recevoir et ben oui, notre activiste, et j'aime bien dire super-héros du VIH à Clare, en Nouvelle-Écosse, Dan Robichaud. Salut Dan.
Bonjour Denis Martin, j'aime bien ça de voir des nouveaux visages sur le panel aussi.
Ah, c'est le fun. C'est le fun. Allez, on va y aller tout de suite. On va lancer la discussion. Puis je pense que je vais lancer Amé là-dessus parce que il y a des enjeux d'iniquité d'accès pour les soins de santé. Les francophones hors Québec et les anglo-québécois ne peuvent pas toujours accéder à des services de santé dans leur langue et qui risquent donc de subir des répercussions négatives. Puis ça, c'est ce que dit un nouveau rapport du Sénat.
Oui, exactement. Tu as super bien résumé ça. Dans le fond, ce nouveau rapport du comité sénatorial qui était en charge d'investiguer tout ça a noté qu'il y a un grand coût puis une élévation des risques, des déterminants de la santé, des piètres résultats en lien avec le fait que trouver des services de santé en français dans les provinces de l'Ouest, c'est vraiment, vraiment pas évident. Et encore moins quand t'es une double minorité, soit queer et francophone.
Et ça, ça peut avoir des impacts sur la santé parce qu'on s'entend, quand on se fait pas servir dans sa langue, quand on est malade, de trouver les mots dans l'autre langue, c'est déjà un problème. Et ajoutons à ça le fait d'être queer puis de devoir aussi expliquer ça dans une autre langue.
Ouais, c'est ça. Je veux dire, je pense qu'il y a un super bel article de Radcan qui est sorti qui disait justement quand on est malade, on n'est pas bilingue. Tu sais, on veut avoir les mots exacts pour expliquer exactement la nuance de comment on se sent, des enjeux auxquels on fait face. Puis quand on n'est pas à son meilleur, ça peut être difficile de penser en plusieurs langues en même temps. Les risques et les déterminants viennent vraiment du fait que ça peut vraiment créer une méfiance. Tu sais, comme si les personnes trans ou de la diversité de genre n'étaient pas assez méfiantes du système de santé pour plusieurs raisons liées à la discrimination, etc., dans le passé. Le fait de, en plus, ne pas recevoir les services dans sa langue maternelle cause une amplification de cette méfiance-là.
Bien, moi, je peux te parler d'une expérience personnelle parce que j'ai vécu au Canada anglophone et j'étais à Halifax quand j'ai eu mon diagnostic de VIH. Puis j'avoue que ça a été vraiment compliqué de trouver une psychologue avec qui je pouvais parler. Parce que là, il fallait que je parle en anglais, puis je suis parfaitement bilingue, ça n'a rien à voir, mais là, ça ne fonctionnait pas. Je ne sais pas pour les autres là, sur le panel, si c'est quelque chose que vous voyez dans vos régions aussi. Peut-être que je vais lancer la balle à Georgelie. Oui, vas-y, Georgelie.
Oh, bien sûr, absolument. En Ontario, la situation est pareille. Donc, surtout chez Franco-Queer, on accompagne des personnes qui sont nouvellement arrivées francophones. Donc, quand une personne trans arrive chez nous, le plus grand défi, c'est accès à des services en français, surtout quand on parle des services de santé. Et Amé l'a déjà résumé, donc rencontrer son médecin de famille, ne pas pouvoir s'exprimer dans sa langue maternelle, c'est déjà, ça renforce les discriminations, ça renforce les préjugés, ça renforce la peur. Donc c'est pareil ici en Ontario.
Dan, je suis certain que tu as quelque chose à dire là-dessus parce que toi aussi, tu es un usager comme moi du service de santé.
Oui, c'est pas très différent en Atlantique. Il y a des manques, surtout au niveau de la langue, là, parce que moi-même, j'ai vécu ça comme un patient du VIH. Lorsque la traduction des termes, les termes sont très techniques, puis la traduction est pas évidente, que même des médecins que j'avais, que le français, c'était leur langue maternelle, là, on a appris des nouveaux termes ensemble. Ça fait que c'est pas très différent. Des fois et tout, qu'est-ce qu'il peut faire, c'est que si on se comprend mal avec un médecin, on n'a point les services qu'on veut parce qu'on comprend simplement point les termes, là. Le médecin, c'est pas un lexique non plus, là.
Il y a des enjeux, là, parce que là, on parle de soins de santé, puis si les ordonnances sont pas rédigées ou faites d'une façon qu'on peut comprendre, il y a des risques de santé, puis là, on peut aller très loin. Alors, c'est quand même un sujet qui est primordial. Je vais rester avec toi, Dan. J'aimerais qu'on parle de sous-financement pour les programmes destinés aux personnes queer, une question cruciale en Nouvelle-Écosse. Et au
Oui,
Nouveau-Brunswick aussi, j'allais dire, oui.
absolument. En Nouvelle-Écosse, bien qu'on a fait des programmes, les programmes queer et le financement des programmes queer à toute l'Atlantique, c'est une réalité constante. Beaucoup d'organisations fonctionnent avec des très petits budgets qui sont des budgets précaires, souvent à court terme. Puis ça rend difficile de rendre des services durables. Surtout en Nouvelle-Écosse, on a vu des organisations qui disparaissent ou qui ralentissent leur activité et on continue à le voir. Je ne le dis pas juste au passé, c'est quelque chose qui se passe maintenant. Faute de manque de ressources suite à l'annonce dévastatrice du budget en Nouvelle-Écosse. Pourtant, le besoin est encore là.
Puis, excuse-moi, on a sauté rapidement, mais au Nouveau-Brunswick, on parlait aussi de sous-financement pour les chirurgies d'affirmation de genre. On retourne dans la santé, là, qui devient un problème là-bas.
Tout à fait, tout à fait. Et je dirais que c'est la même réalité en Nouvelle-Écosse aussi, là.
Ah, ouais.
Et oui.
Bon, fait que ça va pas très bien pour les services de santé dans nos communautés.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Actualité.
Bon, ben, on continue avec notre panel, notre groupe, donc, d'un boileau du Canada. Je retourne en Ontario, Georges Lee, parce que beaucoup de personnes immigrantes pouvoir s'établir au Canada, c'est une grande liberté. Ben, parlons-en de ces personnes-là qui doivent fuir la discrimination. Peux-tu nous dresser un portrait rapide là, de qui sont ces personnes? Et je sais que c'est toi qui s'en occupe à Franco-Queer, là.
Bien sûr. Donc, si on parle de portrait, peut-être que ce ne sera pas trop beau à dessiner, surtout quand on sait qu'on, dans le contexte d'immigration, on accompagne des personnes très vulnérables, surtout d'origine afro-caribéenne, et surtout la majorité de ces personnes vient des pays où le simple fait d'être homosexuel ou d'être gay ou d'être membre de la communauté, c'est déjà l'existence est déjà criminalisée. Donc, le fait d'être au Canada se voit comme on est sur une terre de liberté, une terre d'accueil. Cependant, c'est comme on parle de problèmes de soins, d'accès aux soins de santé dans la langue ou en français. Donc, l'atterrissage, on peut considérer l'arrivée de ces personnes comme une sorte d'atterrissage forcé, parce qu'il n'y a pas assez de services en français, il n'y a pas assez de ressources. Et puis, l'immigration, dans ce contexte d'immigration, quand on arrive, on arrive surtout avec des chocs post-traumatiques.
On a tout un
Donc, on
bagage, oui.
sait justement, donc, quand cette personne arrive, il ne suffit pas d'avoir un toit. Déjà, en Ontario, je ne sais pas si chez vous c'est comme ça, on fait face à un grave problème de logement. Donc là, même si j'ai mentionné un toit, même avoir accès à un refuge, c'est très difficile. Et compte tenu l'identité queer, c'est très difficile parce que les services ne sont même pas adaptés. Avoir accès à un refuge, ce n'est pas facile. Avoir accès à des soins de santé, ce n'est pas facile. Donc, même si on voit cette terre comme une terre d'accueil, donc il y a beaucoup de choses qui restent encore à améliorer pour rendre l'expérience des gens vraiment agréable ici au Canada.
Bon, là, on parle d'immigration, mais je vais aller dans l'Ouest parce que là, le problème est aussi vis-à-vis des personnes trans, créer ou avoir des espaces bienveillants dans le domaine de la santé, notamment pour les personnes trans, c'est pas évident. Et le comité franco-queer de l'Ouest offre une formation pour les professionnels de la santé qu'on appelle Transéquité. Ça m'intéresse. C'est quoi ça?
Oui, absolument. Transéquité, c'est un projet qui couvre vraiment tout l'Ouest canadien. Donc, on parle des deux territoires au nord, des quatre provinces.
Aïe, aïe, aïe.
Ouais, on est occupé. Mais dans le fond, c'est une certification qui vise les prestataires de santé francophones dans l'Ouest pour qu'ils puissent avoir accès aux, justement, tu sais, Daniel parlait des termes et du bon vocabulaire pour rendre les personnes trans et non-binaires confortables dans leur milieu de santé. Donc, tu sais, on parle du français inclusif, comment utiliser des néopronoms comme «iel», mais aussi s'assurer que les prestataires connaissent bien, en anglais, on dit comme le «pipeline», donc les démarches cliniques pour aller chercher des soins d'affirmation de genre, même si ça doit être dans l'anglophonie. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de rendre le plus compréhensif possible pour mieux outiller les prestataires de santé à aider leurs patients et patientes qui font face à ces intersections-là de francophones, trans, francophones et non-binaires, et s'assurer qu'on collabore avec les services anglophones pour que les personnes francophones soient bien accueillies dans ces espaces-là aussi.
Des espaces bienveillants et aussi donc former les professionnels de la santé, c'est pas évident. Puis vous faites ça en ligne, j'imagine, parce que c'est quand même assez grand comme territoire à couvrir.
Oui, on fait ça en ligne, sur Zoom, au moins. On a un atelier au moins une fois chaque 2 mois sur soit notre atelier de démystification de base ou sur les soins d'affirmation de genre dans une province ou un territoire spécifique ou sur le français inclusif. Mais on les fait aussi sous demande et pour la durée du projet, donc jusqu'en 2028, c'est gratuit. Donc, n'importe quelle institution ou ordre professionnel ou professionnel de la santé peut nous demander pour des ressources, puis des ateliers, dans les prochaines, 2 années, ce qui est vraiment, vraiment excitant. Puis on encourage, tous les prestataires de santé dans l'Ouest canadien d'en prendre avantage.
On va rester dans les espaces bienveillants, puis on va aller faire un petit tour dans l'est du pays, des provinces de l'Atlantique. Ben, il y a un nouveau bar à Halifax, le Backlot.
Ben oui, il y a un nouveau bar gay qui s'en vient, ça s'appelle le Backlot, c'est sur la rue Gottingen à Halifax. C'est environ dans la même région où se trouvait l'ancien club Energy.
Hey, mon Dieu, j'ai fréquenté ça, moi.
Et c'est pas d'hier.
Ouais, ça me donne de l'âge.
On parle d'un espace qui va avoir 2 étages avec un lounge plus calme en bas et une piste de danse en haut lorsqu'il y aura une programmation de soirées de drag, de karaoké et des
Mais
événements communautaires.
on s'entend, Dan, que c'est quand même assez inusité alors que les bars, les espaces queer ferment partout au pays.
Oui, c'est vraiment important. C'est point que c'est un bar, c'est un espace sécuritaire, c'est un point de rencontre, c'est une culture qui continue à exister. C'est le patrimoine bâti.
Ouais.
On mentionnait juste un bar Energy, là, c'est fermé il y a 20 ans. On a encore des histoires à raconter.
Ah oui, on pourra en raconter plusieurs. Hey, les amis, on est arrivé à la fin de notre segment. Vraiment, c'est un plaisir de discuter de ces nouvelles qui touchent nos communautés d'un bout à l'autre du pays. Alors, je vais vous déprésenter tout le monde. Alors, on vient d'entendre Dan Robichaud, activiste et j'aime bien dire super-héros, queer et VIH, à Clare, en Nouvelle-Écosse. J'aimerais aussi remercier Georges Libéré, qui est coordonnatrice des services d'établissement des nouveaux arrivants chez Franco-Queer à Toronto. Et enfin, à l'autre bout du pays, Amé Simard, responsable du développement communautaire et chargée de projet, Comité Franco-Queer de l'Ouest à Vancouver. Merci à tous les trois et à la prochaine.
Merci.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Actualité.
Encore une fois, ben oui, c'est le jour de la marmotte. Interling fait face à l'urgence. Nous enregistrons juste pour que tout le monde soit au courant. L'émission que vous écoutez, c'est le 6 avril, mais on a enregistré une semaine plus tôt. Alors, je peux vous dire que peut-être que le service d'écoute de nuit d'Interling sera à nouveau sauvé in extremis, mais sincèrement, je crois que c'est pas ça qui est idéal pour l'organisme à toute dernière minute de devoir virer fou à trouver de l'argent parce qu'il faut sauver ce service. Et pour en discuter, je reçois le président d'Interling, Antoine Baudouin-Gentès. Merci d'être là.
Bonjour, merci de l'invitation.
Alors, malgré des interventions vitales auprès des communautés de la diversité sexuelle et de genre partout au pays, le financement n'est toujours pas confirmé, forçant des coupes peut-être à venir sombres dans les services. Comment on vit ça, là, ce jour de la marmotte? Parce que la dernière fois, c'était en 2023.
C'est très difficile. Donc, c'était il y a 3 ans, puis on se retrouve devant le même combat, celui de sauver nos services essentiels. C'est difficile pour l'équipe, pour la direction générale, pour les employés aussi qui ont eu des avis potentiellement là, de fin de contrat. Donc, quand on prépare un plan de contingence comme on le fait, qu'on a approuvé au conseil d'administration, c'est toujours très difficile. Ça crée de la pression, du stress, de l'anxiété, parce que les services, ils sont essentiels, ils sont demandés, mais c'est le financement qui est en jeu.
Bon, là, j'ai commencé l'entrevue en parlant du problème, mais je n'ai peut-être pas expliqué qu'est-ce que c'est le service de nuit que vous offrez à Interling.
Donc, c'est dans la continuité, la ligne d'écoute, dans le fond, on dit ligne d'écoute, donc téléphone, clavardage, c'est normalement un service qui est 24 heures, donc 24 sur 24. La nuit, on le sait, c'est un moment où les demandes d'aide, elles sont très présentes. Nous, c'est près de 40% des demandes d'aide qu'on reçoit durant la période de la nuit. Donc, évidemment, c'est tout à fait compréhensible. La nuit, les pensées anxieuses, les pensées difficiles peuvent
On est tout seul dans son lit.
Il y a beaucoup de solitude. Ouais, ouais. Donc, la nuit, les besoins sont là. C'est prouvé. Donc, notre équipe est sur place et on avait réussi, il y a 3 ans, à sauver le personnel de nuit grâce à l'entente Canada-Québec qui avait permis le financement de la ligne de nuit dans le cadre d'un financement à projet d'une durée de 3 ans. Et c'est ce qui fait que 3 ans plus tard, bien, on se retrouve devant la même situation, puis qui est souvent une histoire qui se répète dans le milieu des organismes communautaires, qui est celui financement à projet.
Le communautaire à bout, là. Vous faites partie de ça, vous autres aussi, là.
Ben oui, évidemment, c'est un mouvement qu'on soutient, c'est un mouvement auquel on prend part parce que les besoins sont là. Nous, du côté d'Interling, c'est seulement le tiers du financement qui est à la mission. Donc, le 2/3, ben, c'est du financement à projet, c'est de la philanthropie. Donc, ça crée une pression immense sur les revenus parce que le financement, la mission, il est tout petit. Il n'est pas du tout à la hauteur des besoins des communautés LGBTQ. Donc, on doit continuer de se battre. Puis, comme tout le milieu qui est à bout, comme le mouvement de protestation qu'on voit en ce moment, ben, Interling vit la même situation.
Ben, c'est un peu pour ça que je voulais inviter quelqu'un d'Interling parce que vous le vivez, puis l'exemple est tellement là. Et en plus de ça, ben c'est ça. Les gens doivent faire toutes sortes de petites pirouettes pour aller faire rentrer leur programme dans les projets qu'on leur propose. Et on appelle ça du malfinancement, finalement.
Ben oui, parce qu'on s'entend qu'un service essentiel comme une ligne, on est la seule ligne francophone LGBTQ au Canada. Donc,
des appels de partout au pays, si je comprends bien.
Ah oui, puis même dans la francophonie, la grande majorité, là, plus de 60%, c'est sur l'île de Montréal. Par contre, c'est à travers le Québec, à travers le Canada. Toute la francophonie nous appelle parce que c'est un service qui est spécialisé. C'est offert par des personnes issues des communautés LGBTQ+. Donc, on le sait que c'est une aide qui est vraiment personnalisée. Lorsqu'on parle de questions en lien avec l'identité de genre, on le sait très bien qu'un service comme le 811 n'a pas les ressources, le niveau de connaissances pointues pour répondre à ces questions-là. Et bien souvent, un service comme le 811 va référer un appel spécifique à l'équipe d'Interling parce qu'ils n'ont pas la connaissance pointue pour aller aider une personne trans, par exemple, qui est en questionnement. Donc, le service d'Interling, il est spécialisé par et pour les personnes LGBTQ+. Donc, c'est quand même triste de voir qu'après 45 ans aussi, on a fêté cette année nos 45 ans d'existence. Donc, historiquement, Gaycoute,
qui a été géré longtemps par Laurent McKitchen, fait Laurent McKitchen, oui.
Exactement. Donc, c'est une figure mythique de l'activisme LGBTQ+, au Québec. Et c'est quand même toujours triste pour nous comme conseil d'administration, puis je parle pour l'équipe au complet, de voir que 45 ans plus tard, on doit encore se battre pour exister. Puis on est un organisme qui est quand même dans une posture un peu plus privilégié, Interlink, si on compare à des plus petits organismes locaux. Mais il y a quelque chose de triste dans ce combat perpétuel qui est très épuisant. Évidemment, on le fait parce qu'il faut le faire. On ne baisse pas les bras. On a un conseil d'administration de 15 personnes, une équipe de plusieurs employés. Donc, on va tout faire pour les sauver, les services. Et ce qui est positif, cette année, ce qu'on ne voyait pas il y a 3 ans, c'est l'ouverture quand même du gouvernement, puis on le précise dans les entrevues qu'on fait depuis quelques temps. Nous, les échos qu'on a du côté de l'équipe de Caroline Proulx, donc l'équipe qui est responsable des dossiers LGBTQ+, au gouvernement du Québec.
La ministre qui est responsable de ça, oui.
Exactement. Donc, on a une écoute proactive, on a des signaux positifs. Rien n'est confirmé, mais on a des signaux positifs comme quoi cette entente Canada-Québec pourrait être reconduite. Mais rien n'est confirmé au niveau des détails, au niveau des sommes qui pourraient être offertes. Donc, on souhaite que lors de la diffusion, j'espère comme vous, lorsque je vais écouter la diffusion, que les nouvelles auront bougé là, dans les prochains jours.
Le problème demeure entier parce que ça va être à recommencer dans un an, 2 ans, 3 ans. C'est toujours le même rituel. Et vous offrez un service qui, autrement, n'est pas offert. Parce que c'est souvent le communautaire, c'est souvent ça que ça fait. Ça donne des services comme une porte d'entrée dans le système de santé, mais souvent.
Mais c'est un service spécifique qui a fait ses preuves aussi, parce que 45 ans plus tard, c'est aussi niveau générationnel. De génération en génération, on peut penser aux plus jeunes personnes. Quand on va dans les écoles, évidemment, au secondaire, les jeunes personnes LGBTQ+, ont besoin de parler à quelqu'un. C'est pas parce qu'on... Des fois, on peut être dans une région où on n'a personne à qui parler. Donc, c'est vraiment, vraiment essentiel. Puis, ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'Internet Ligne, il y a des services complémentaires. Donc, on ne fait pas seulement la ligne d'écoute, on a aussi des formations dans les milieux corporatifs. On va offrir également toutes sortes de services pour les milieux scolaires. On a fait des projets avec les aînés. Il y a toute une cartographie de projets que Interlink fait depuis 45 ans. Et c'est pourquoi le financement à la mission est une de nos revendications là, qu'on fait auprès du gouvernement, parce que oui, on ne veut pas à chaque 3 années devoir se rebattre pour notre existence. Donc, on va toujours continuer de militer pour un financement à la mission qui est décent, qui est à la hauteur des besoins de l'organisation.
Je vais parler de besoins. Les chiffres de votre dernier rapport d'activité sont alarmants. Les appels liés aux victimes de violences ont bondi de 110% et ceux concernant des enjeux spécifiques aux personnes trans ont augmenté de 529% en un an. Et le climat social qui n'est pas très jojo là-dedans, comment vous envisagez votre avenir avec ces possibilités de financement qui sont difficiles?
Mais c'est vraiment le miroir de la société, le backlash qu'on vit depuis déjà quelques années avec la montée de la droite, l'homophobie, la transphobie qui est rampante dans nos sociétés. En Amérique, du moins, là, on le voit à la ligne d'écoute, ces appels de détresse augmentent parce que l'homophobie, la transphobie, elle domine dans la société beaucoup plus qu'il y a quelques années. Donc, c'est quand même toujours difficile de constater le recul qu'on vit en ce moment comme société. C'est difficile pour notre équipe aussi. On peut imaginer la fatigue de compassion, d'avoir des gens de plus en plus souffrants. On a des gens qui appellent en idéation, qui ont des idéations suicidaires, qui ont des enjeux de consommation, des enjeux où vraiment la vie, l'intégrité psychologique de la personne est compromise. Donc, c'est triste pour nous de voir que le reflet des appels d'aide qu'on a sont tout à fait similaires à ce qu'on voit dans la société avec l'homophobie, la transphobie, la violence, l'intimidation qui est très, très présente.
Antoine, il y a aussi la ministre Proulx qui a dit, ça fait pas, les gens pourront appeler le 811.
On nous l'avait dit il y a 3 ans aussi.
Oui.
On nous l'avait dit, puis ce qui était drôle, c'est qu'on avait invité à l'époque une journaliste. En fait, la journaliste de Radio-Canada voulait venir assister à un quart de nuit pour voir comment ça se passait. C'était durant le mouvement de protestation il y a 3 ans qu'on avait fait. Et le premier appel auquel elle a assisté, c'était le 811. Qui nous appelait pour un transfert d'appel parce qu'il n'avait pas les compétences pour répondre à la demande d'aide en direct. Donc, on trouvait ça quand même assez rigolo, je le mets en guillemets, de voir que même quand on invite une journaliste, on a nous-mêmes le 811 qui nous appelle en disant « Écoutez, là, moi, cette question-là spécifique, je ne peux pas y répondre. » Donc, le 811, il existe, puis évidemment, on est content qu'il existe. Il faut qu'un service comme ça à l'échelle pan-québécoise existe, mais il est faux. C'est important de le dire, il est faux de dire que le 811 peut se substituer au service d'Interlink. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, nous, on travaille en collaboration avec l'ensemble des lignes d'écoute. On parle du 811, mais on parle du CPSN, donc la ligne au niveau des idéations suicidaires. Nous, on a un groupe de travail, là, c'est notre directeur général, Pascal Vaillancourt, qui prend part à ce groupe-là. On collabore avec l'ensemble des lignes d'écoute au Québec pour s'assurer qu'on arrime nos services parce qu'il y a ces transferts-là. C'est la même chose pour nous quand on a quelqu'un qui est en idéation suicidaire très prononcée. On on peut faire un transfert vers le Centre de prévention du suicide de Montréal pour s'assurer qu'on respecte nos expertises qui sont complémentaires. Donc, le 811, ce n'est pas la solution, malheureusement, au financement d'Interlink.
Bon, sans parler de chiffres, là, ça coûte combien faire fonctionner Interlink annuellement?
Donc, on a un budget, le dernier budget, oui. Parce que là, celui qu'on a approuvé en conseil d'administration, il est amputé de plusieurs centaines de milliers. Donc, on a un budget d'un peu plus que 1,5 million de dollars annuellement. Donc, on est à 1,6, 1,7.
Et vous recevez combien la mission?
400 000 dollars.
Fait que tout le reste, il faut aller chercher ça.
Plus d'un million de dollars. Donc, c'est à chaque année, depuis quand même quelques temps, plus d'un million de dollars annuellement en financement par projet, en philanthropie. On a notre soirée.
La philanthropie, c'est pas facile.
Non, puis nous, ben, comme tout le monde, on le vit. On a une soirée annuelle qui est la grande démesure. Je ne sais pas si vous êtes déjà
venu. Oui, j'ai déjà allé, oui.
Donc, notre soirée complètement démesurée à chaque année où on fait un gros party, on invite des gens, on ramasse. Cette année, c'est plus de 100 000 $ qu'on a amassé, mais c'est des mois de travail, des commanditaires, de la vente de billets. On avait plus de 350 billets vendus. Donc, un gros party avec des invités, des artistes, de la nourriture, des commanditaires pro bono. C'est très, très exigeant pour lever la somme de 100 000 $ Donc, à chaque année, on se pose la question, est-ce qu'on a l'énergie, les ressources pour refaire une soirée comme ça? Et là, bien, en parallèle, on a aussi la chance d'avoir des gens qui font de levées de fonds complémentaires, donc des gens qui peuvent faire un défi sportif, par exemple. Ouais. On en a avec le 21K au mois d'avril à Montréal. Donc, mais malgré tout, il faut le répéter, on devrait, dans une société, je crois, où un financement minimal à la mission, 400 000 $ là, pour un financement à la mission pour un organisme de 45 ans d'existence, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que c'est historiquement, c'est pas normal dans le sens qu'il y a eu historiquement les organismes LGBTQ+, au Québec, ont aussi souffert d'un sous-financement chronique historique lié à toutes sortes d'enjeux sociaux parce qu'on se rappelle que 30-40 ans, c'était pas la même chose, ces organismes-là. Donc, Gay Écoute n'a pas, même à l'époque, su un peu prendre la cadence là, de l'augmentation du financement à la mission du PSOC, le fameux PSOC du ministère de la Santé et des services sociaux. Donc, une ligne d'écoute, on connaît des gens, je nommerai pas de nom, mais des organismes similaires aux nôtres, qui ont le même âge, qui des fois ont le double du financement à la mission. Donc, c'est pour ça qu'il faut militer pour le rehaussement du financement à la mission globale d'Interlink.
On n'est pas sorti du bois, mais on va se croiser les doigts pour que lorsqu'on diffusera, ça sera réglé, du moins pour un petit bout. Merci beaucoup, Antoine Baudouin-Gentès.
Merci.
Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DMChabotAuteur et sur LinkedIn, Denis Trait d'Union, Martin Trait d'Union Chabot.
Et puis après la pause, on va parler d'orthorexie, puis on va aussi parler de crise de logement, hausse du loyer, qu'est-ce qu'on peut faire?
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Aux petits soins, notre chronique santé.
Miroir, 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 dis-moi qui est le plus beau, la plus belle du monde. Et misère, c'est pas souvent moi, j'ai bien de la misère avec ça. Gengis, on va parler de beauté aujourd'hui et de beauté corporelle.
Absolument, Denis Martin, comment ça va aujourd'hui?
Ça va bien, je savais que j'étais pour te faire rire avec ma petite intro.
Ah ouais, c'était difficile de pas rire.
Donc, on parle d'image corporelle.
Dans certains milieux gays, le corps devient une carte d'identité, mais à quel prix? Puis jusqu'où? Où est-ce qu'on va pour notre santé dans la communauté LGBT? Moi, je crois qu'on a une sous-communauté. Vraiment, tu sais, on parle vraiment souvent de sous-communautés, comme la sous-communauté trans, la sous-communauté poppy, la sous-communauté bear. Mais moi, je pense qu'on a une sous-communauté que je surnommerais, avec tout l'amour que je leur dois, la sous-communauté des orthorexiques.
Orthorexiques,
oui,
c'est quoi ça?
Orthorexie est une forme d'obsession pour calculer toutes ces ingestas. Ces ingestas, sur un point de vue médical, c'est
tout ce qu'on mange.
Tout ce qu'on mange, tout ce qu'on absorbe, toutes les calories, voire même peser la nourriture qu'on absorbe, et ce, associé souvent avec un entraînement démesuré.
Oui. Alors, donc, pour obtenir quoi?
Pour obtenir un physique parfait. Pour que quand on swipe son profil, qu'on le swipe à droite au lieu de le swiper à gauche.
Ah, bon. Pour s'être certain de plaire. Cela dit, là, c'est quand même important ce qu'on dit là. Il y a des dictats présentement. Hein, quand on regarde tout ce qui est sur les magazines, ce qu'on nous présente à la télé, même la belle série Heated Rivalry, écoute, les gars, là-dessus, même celui qui est barista, il a un corps parfait d'un athlète de sport incroyable d'élite, là.
Comme tu me dis, miroir, qui est le plus beau, le prix de la jeunesse éternelle est une obsession un petit peu pour beaucoup de gens dans notre communauté.
Bon, on parle de jeunesse, mais jeunesse avec un corps parfait.
Et un corps parfait, et aussi, je te dirais, l'attitude parfaite, l'attitude positive, toxique, parfaite. Tout centré dans l'image, l'apparence, c'est très, très fort, Denis Martin. Quand on regarde un peu les applications comme Instagram, Grindr, Tinder, Facebook Rencontre, Inch, Badoo, tout est dans la superficialité, dans l'apparence. Puis ça a un impact sur chacun d'entre nous parce que notre comparatif est toujours démesuré, incommensurable. On doit toujours se comparer à quelque chose qui est difficile de le faire.
Oui, tout à fait.
Tu sais, quand on regarde un peu les grands préjugés qui sont très dévastateurs pour chaque individu, là, j'aborde ça avec prudence, là, mais on le voit, on lit sur les applications « No fats, no femmes, mask for mask ».
Alors, pas de gros, pas d'efféminés, juste des masculins.
Juste des personnes masculines, c'est quelque chose qu'on voit souvent, tu sais, « fit body only ». Tu sais, je pense à de la clientèle que j'ai. Moi, je pense à plusieurs couples que je suis activement comme infirmier. Ils rentrent en couple, les deux sont parfaits. T'sais, on parle de corps instagrammable. Puis, qu'est-ce qui arrive en couple? Bien, on se laisse aller. Ah. L'orthorexie prend un peu le bord. Puis là, il y en a un des deux dans le couple qui va se laisser aller. Puis
moi, le petit bourrelet qui arrive.
Oui, les petits... Comment ils appellent ça? Ils appellent ça les muffin puff.
Les muffin top ou muffin puff?
Ouais, les muffin top.
Ça dépend du pantalon, oui.
Exactement. Puis, j'entends encore des propos très difficiles qui résonnaient à mes oreilles d'un de mes clients qui me disait « Dès que mon chum atteint je pense que c'est une taille de ceinture 34, c'est pour mesurer nos pantalons, dès qu'il atteint le 34, dès qu'il faut qu'il pèse sur sa bédaine pour voir son organe génital, dis-moi, je le flosse, c'est sûr que je le garde pas. » Fait tu sais, taille 34, là, c'est pas si obèse que ça.
Ben non.
C'est pas si obèse que ça, c'est très sévère. Puis il y a comme un fond de culture qui juge sévèrement l'apparence physique où ce que dès qu'on a un indice de masse corporelle entre 25 et... En haut de 25, puis tu sais, à 25, t'es déjà slim un peu. T'es déjà slim beaucoup. Dès que t'es en haut de 25, t'es considéré comme un produit à jeter, à non accepter, à non valider.
Mm-hmm.
Puis quelqu'un qui va focusser sur son apparence physique, qui va être validé par une génération qui focus là-dessus, qui met beaucoup d'intérêt sur l'apparence physique, l'apparence mentale, l'image et tout ça, puis qui va se faire valider automatiquement comme ça, bien, ça renforce un mécanisme qui est comme un peu interminable là, en effet de société, tu sais.
Et ça a des impacts sur la santé.
Bien, quelqu'un qui se compare toujours à l'incomparable, puis qui
est à l'inatteignable, qu'on devrait
inatteignable.
Dire.
Inatteignable. J'en parlais justement avec une de mes amies au gym tantôt, tu sais.
Ah, tu vas au gym, toi?
Ben oui, j'ai maintenu mes résolutions, Denis Martin.
Oui, mais tu vas pas au gym pour avoir l'air de la personne orthorexique, là.
Non. Okay. Non, je vais brûler mes calories de sushi que j'ai trop mangé la veille. Okay. J'en parlais justement à elle. Elle me dit, tu sais, Janjis, elle dit, j'ai beau manger sec. Elle dit, je suis pas capable de perdre mon ventre. J'ai dit, oui, mais Yannick. J'ai dit, j'ai dit, on a 12 000 ans d'évolution dans le corps.
Mm-hmm.
Dans notre histoire, là, il fut des temps où ce qu'il fallait passer 6 mois sans manger, il fallait avoir une certaine réserve, tu sais. J'arrive pour le commun des mortels, il y a seulement 3 % de la population qui peuvent avoir un corps sec et parfait, là.
Le corps qu'on appelle ça un corps de nageur, c'est ça, ou de plongeur?
Moi, j'appelle ça, oui, un corps de plongeur ou vraiment un corps d'orthorexie.
Oui.
Moi, j'appelle ça vraiment un corps d'orthorexie parce que pour 97 % de la population, avoir ce corps-là demande une méthodologie, là, une discipline sans fin.
Il faut avoir aussi la génétique pour être comme ça.
Ben, oui, pour le 3 % qui peuvent y arriver facilement. Il
ouais.
y en a qui peuvent manger ce qu'ils veulent, ils vont avoir ce corps-là. Ça, on parle à peu près 3 % de la population.
Et les autres, il faut vraiment qu'ils se rentrent les doigts dans la gorge. Moi, c'est vraiment gros ce que je disais, mais ça fait partie des choses qui se passent.
Qui se martyrisent sur un point de vue alimentaire et physique.
Ouais.
Ouais.
Donc, on a parlé des impacts sur la santé. Bien, on se compare. La santé mentale, commençons là, parce que c'est pas bon.
Quand on se compare avec l'incomparable, dans le fond, ça va provoquer aussi ce qu'on appelle une faible estime de soi.
Ouais.
Ça peut créer du repli, avoir un petit peu de phobie sociale, parce que les gens vont carrément s'imaginer que dans le regard des autres, les autres, quand ils nous regardent, bien, ils nous voient comme des espèces de monstres obèses qui sont trop efféminés ou pas assez fit ou pas assez de ne pas être assez. Ça a un impact psychologique chez les gens qui se comparent énormément, mais chez les gens qui réussissent à atteindre leurs objectifs d'orthorexie, d'avoir une faible densité de matière grasse, d'avoir une faible rétention d'eau, d'avoir un faible pourcentage d'eau et de gras, ouais, ça se dit comme ça. Ces gens-là atteignent un niveau que notre société valorise, soit un peu l'image parfaite, mais tu sais, derrière le masque, il y a un individu. Derrière cette image-là, il n'y a pas ce que nous, on pense qui s'y trouve. Là.
Justement, parce que là, on parlait de la santé mentale de ceux qui espèrent atteindre ce niveau-là qui est inatteignable pour la plupart, mais ceux qui l'ont atteint, à quel coût qu'ils l'ont atteint?
Bien, ils l'ont atteint au coup de plus pouvoir manger de crème glacée, de plus pouvoir mettre de sauce dans leur poulet brocoli. Ça, on s'entend que ces gens-là ont une diète excessivement strict. Il n'y a pas de mayonnaise, il n'y a pas de ketchup, il n'y a pas de relish, il n'y a pas de moutarde, il n'y a pas de sauce. La seule chose...
Je veux bien, là, mais il n'y a pas des risques d'anorexie là-dedans?
L'anorexie, ça serait une privation absolue. Là, l'orthorexie, c'est de tout compter les calories qu'ils absorbent.
Comment est-ce qu'on fait pour être heureux avec ça?
Ben, je sais pas, mais moi, du poulet puis du brocoli sans sauce à tous les jours, je te cacherais pas que je serais malheureux. Je mettrais des tranches de fromage là-dedans pour rehausser le goût.
Je vais juste penser au brocoli. Ça peut être bien sec des fois, ça.
Non, mais tu sais, il fut un temps, le Moyen-Âge, les gens mangeaient de l'eau puis du pain noir. C'est révolu un petit peu, hein, tant qu'à moi.
Mais bon, donc on parle de restrictions alimentaires, donc, mais il y a aussi plein d'autres choses qu'ils peuvent faire qui n'est pas toujours très sain pour le corps.
Le surentraînement physique, tu sais, des fois, on va au gym, puis justement, j'étais là tantôt puis avec mon ami Yannick, il y avait quelqu'un qui avait une ceinture autour de lui, puis il était en train de lever des poids, puis il était tellement en train de forcer que quand il levait sa grosse barre, là, avec sa grosse ceinture abdominale, il pleuvait de la sueur en dessous de lui.
Ah ouais.
Là, je regardais la charge qu'il était en train de lever, là, je sais pas s'il était à 500 livres ou pas très loin de ça. Premièrement, se surentraîner comme ça, avec des barres de poids trop élevées, l'esclavage est aboli depuis longtemps.
Ouais.
Commençons par un concept de base. Puis, c'est très dur sur le dos, c'est très dur sur les genoux. Il n'y a rien de bon sur aucune articulation qui absorbe ça.
Ouais.
Tu as beau vouloir péter des scores, être capable d'aller chercher plus de validation. Puis en plus, il y avait sa petite caméra qui était en train de se filmer. Je trouvais ça bien épouvantable. Puis il se filmait, tu voyais la chute d'eau lui couler entre les jambes. C'est dégueulasse pour toutes les gens qui utilisent le gym aussi. T'sais. Oui, tu es capable de lever peut-être... J'ai arrêté de compter les plaques de 45 livres qu'il y avait. Puis je ne sais pas si ça a totalisé 500 livres ou 250, mais reste que plus que c'est des charges importantes, plus que tes genoux vont maganer, plus que c'est difficile.
Donc, les impacts pour la santé physique à long terme.
C'est si facile de se déplacer un petit coussin entre les vertèbres là, de la colonne vertébrale, une petite torsion lombaire ou une entorse lombaire, c'est douloureux, c'est long à traiter.
Ça m'est déjà arrivé, une petite...
Puis on levait pas 500 livres.
Non, je levais un sapin de Noël.
je faisais du patin à glace.
Quelle horreur. Ouais. Bon, alors là, on parle que c'est des comportements à risque. Il y a donc, on se prive, on a un rapport malsain à l'alimentation. Je reviens toujours, ces gens-là doivent être très seuls. Parce que moi, quand je regarde quelqu'un qui a un corps sublime, c'est clair que moi, je ne m'approche pas de cette personne-là. C'est hors de ma ligue.
C'est hors de ta ligue. Moi, c'est hors de la mienne aussi. Puis moi, je suis vraiment... je me retrouve... Moi, je trouve ça imposant, voir ces gens-là. C'est sûr que je ne suis pas porté à leur dire bonjour non plus sur les réseaux sociaux. Je suis bien content d'en avoir quelques-uns dans mes amis pour prendre un peu le pouls de leur culture. Mais tu sais, reste que ces gens-là se font sur-aborder sur les réseaux sociaux. Tu sais, les confidences que je peux avoir dans ma clientèle, c'est qu'ils se font tellement harceler sur Instagram, Facebook Messenger, qu'ils vont désactiver toutes les notifications.
Ouais.
Puis là, ils vont seulement répondre à leurs proches via les messages textes. Ou souvent, ces gens-là, quand que tu regardes leur cellulaire, ils peuvent avoir 100 appels manqués, 200 messages non
lus
Facebook Messenger. Tu sais,
ils prennent pour ce qu'ils projettent comme image. Moi, je trouve que ça devient un peu... Ça doit être
parce que quand tu veux projeter une bonne image sociale, tu sais, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui va répondre aux gens. T'sais, moi, je prends le temps de répondre à tous les messages que je reçois, que ce soit en tant que courrier du cœur ou... Hier, il y a un inconnu qui m'écrivait, il savait que j'étais infirmier pour la communauté. Il y avait un problème au niveau d'une articulation d'un doigt. Je prends le temps de répondre à tout le monde. Je ne suis pas focussé sur l'apparence physique. Puis j'essaie de véhiculer d'autres messages ou d'autres images que ça. Là.
On va avancer. Je me rends compte que je t'ai fait retarder. Dans tout ça. Il y a aussi le problème des gens qui prennent des stéroïdes, qui prennent des médicaments qui ne sont pas bons pour leur santé.
Je voulais pas en faire nécessairement la promotion.
Non. Non, certainement
mais,
pas.
Mais c'est sûr que dans cette sous-communauté-là, le marché noir de tout ce qui est hormones de croissance, stéroïdes, hormones aussi, testostérone et tout ça, c'est très présent. C'est très réseauté.
Très dangereux.
Une hormone de croissance, c'est pas à prendre à la légère. Il y a des cancers qui se nourrissent de ça. Puis, ils se piquent tout seuls. Il y en a des fois que ça se ramasse dans des veines ou dans les tissus cutanés. Moi, des fois, quand j'arrive à faire d'autres types d'injections, il y a des grosses bosses en dessous de la peau. Puis, ça change un comportement, Denis Martin. T'sais, on a beau vouloir avoir le corps parfait puis se shooter de la testostérone, mais quand tu rentres sur de l'hormonothérapie comme ça, qui n'est pas dosée avec les prises de sang pour savoir si c'est optimal, bien, tu sais, la personne peut devenir agressive, peut dégager une très mauvaise odeur corporelle. Ça vient avec des bénéfices, mais aussi des maléfices.
On va conclure parce qu'on est rendu au bout de notre temps. Qu'est-ce qu'on doit faire là, avec tout ça?
Moi, je pense que de se recentrer sur ses propres valeurs, tu sais, ne pas encourager ce qui est superficiel seulement.
Ouais.
Moi, il y en a des influenceurs qui sont en embonpoint que je suis. Il y a des personnes qui sont loin d'être parfaites que je suis sur les réseaux sociaux. C'est aussi un peu d'encourager la fameuse diversité puis de ne pas juste se focusser sur le top modèle sur Instagram puis ce qui nous fait sécréter facilement là, la dopamine dans le cerveau c'est de varier.
Alors moi
un
je
peu
suggère aux gens de suivre Gengis Grenier sur Instagram et toutes ses incarnations de coupe de cheveux ou sinon moi avec toutes les incarnations de ce que mon chien a l'air. Non en fait c'est pas vrai, je mets des images de l'émission ici.
Merci beaucoup Denis Martin.
Merci.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. En toute fluidité. Mieux comprendre notre monde.
En toute fluidité, on va rejoindre notre travailleuse sociale préférée, Marie-Claude Joannis. Salut!
Bonjour!
Marie-Claude, on va parler... C'est peut-être pas un sujet qui a le gros titre queer, mais ça nous touche. On va parler de la hausse des loyers.
Ben oui, mais en même temps, ça nous touche parce qu'on sait qu'il y a de la discrimination encore, hein, Denis Martin, par rapport au loyer. Donc ça peut amener une pression supplémentaire là, sur les gens de la diversité.
Ah oui, dans quel sens?
Ben, tu sais, vu qu'il y a de la discrimination pour trouver des loyers, ben à ce moment-là, des fois, les propriétaires vont se servir de ces arguments-là, puis les gens vont se sentir pris un peu en porte-à-faux parce qu'ils savent qu'on a de la difficulté à trouver un autre logement. Là.
Ah oui, oui. Puis même si c'est interdit, hein, ça ne veut pas dire que c'est interdit, que les gens ne font pas de discrimination.
Exactement.
Alors, parlons de hausse du loyer. Allons-y.
Bien, À chaque année, hein, on a notre bail là, qui est réenvoyé par le propriétaire et la très, très, très grande majorité des gens n'y échappent pas. Ça vient avec une hausse de loyer mensuel.
Ouais.
Alors, là, c'est très important de savoir là, que l'organisme qui gère, c'est un organisme gouvernemental qui gère là, les logements au Québec. Ça s'appelle le Tribunal administratif du logement. Les gens appellent ça le TAL, OK, communément. Et il y a un taux qui est fixé à chaque année, Denis Martin. Là, ça sort pas, c'est pas n'importe, ils ne peuvent pas donner n'importe quelle augmentation. Et donc, le taux pour cette année, c'est une augmentation de 3,1 %. OK? Ça, concrètement, ça veut dire que si ton loyer coûte 1 000 par mois, ton proprio n'a pas le droit de t'augmenter de plus de 31 $.
Okay. Il n'y a pas le droit ou c'est plutôt... Moi, je pensais que c'était une suggestion...
Non, ce n'est pas okay. Une suggestion. Non.
Okay.
Alors, il y a des exceptions, évidemment, à ça. Et c'est donc, par exemple, si les taxes municipales et scolaires ont été augmentées de façon substantielle, le propriétaire a le droit d'ajuster le 3,1 avec la partie excédentaire des taxes qui a été augmentée. Ça ne comprend pas les loyers là, avec des services aux locataires, comme par exemple les résidences pour aînés. Il y a quand même un taux, puis le taux pour cette année, c'est 6,7 % d'augmentation maximum.
Bien, c'est pas mal plus que le taux d'inflation, on pourrait dire.
Ouais, ouais, vraiment, vraiment.
Ouais.
Et là, on va rentrer dans le dossier des rénaux majeurs. Là, on va en parler tout à l'heure. Là, souvent, ça va être l'argument massu que les propriétaires là, vont exhiber pour augmenter. Donc, à ce moment-là, l'augmentation n'est pas plus de 5 % par année. Ça doit être amorti sur 20 ans, OK, pour récupérer les investissements. Mais on va en reparler un petit peu plus précisément tantôt.
5 % en plus du 3,1 %. Ouais, on va en reparler.
Non, c'est pas en plus. C'est, okay. C'est au total.
Au total, OK. Okay.
Et souvent, là, le gros argument que les locataires vont donner, c'est « je suis en bas du marché, je veux rattraper le marché ». Ben non, c'est pas un argument.
C'est pas un argument.
Alors, pratico-pratique, là, on reçoit souvent, le propriétaire va nous parler dans le corridor, va arriver avec un bail, là, avec l'augmentation suggérée. Et là, au moment précis où on reçoit là, cette nouvelle information-là, on a un mois. Donc, 30 jours pour répondre par écrit. Et là, c'est super important, il faut répondre par écrit. Donc, soit qu'on écrit une lettre, soit qu'on répond par courriel, mais il faut que ça soit écrit. Et là, on peut dire oui, j'accepte, ou on peut dire je n'accepte pas. Et là, on peut plaider le 3,1 % ou on peut s'informer au TAL là, avant. Et là, c'est important, si vous ne le faites pas dans le mois, automatiquement, la hausse est acceptée.
Ah
ça veut
bon?
Dire que si votre locataire vous a augmenté de 100 $ puis vous n'avez pas répondu par écrit, ça va être augmenté de 100 $ OK? Donc, bien important d'être à son affaire pour ça. Et là, par exemple, si vous refusez dans ce mois-là, vous pouvez essayer de vous entendre à l'amiable avec votre locataire. Ouais. Et là, si ça ne fonctionne pas, bien là, vous pouvez demander, c'est le locataire, en fait, votre propriétaire, OK, qui doit demander au tribunal de faire fixer le loyer. OK? Et là, tant que le tribunal administratif du loyer n'aura pas plaidé, on ne serait pas passé devant un juge, le bail est renouvelé sans modification. Ça veut dire que vous continuez à payer 1 000 par mois.
OK.
Tant que ce n'est pas réglé.
Mais quand c'est réglé, est-ce qu'il faut payer les arriérages, là?
Ça va dépendre de ce que le tribunal va décider.
OK.
Okay. Et là, par contre, ça c'est bien important, si vous oubliez de répondre à votre propriétaire, bien là, c'est automatiquement augmenté. Mais si lui, il demande pas, si lui appelle pas au TAL pour faire fixer le montant du loyer, alors il n'y aura aucune augmentation.
Ah oui, alors okay? faut que
si lui perd son affaire, c'est bon pour vous aussi. Okay?
Faites son affaire.
Okay. Exactement.
Bon, maintenant, donc, juste avant d'aller au prochain point, moi, il y a quelque chose parce que tu sais que Québec solidaire a demandé à ce qu'il n'y ait pas de registre des locataires qui font appel de leur augmentation. Parce que tu sais que... Et ça peut jouer contre quelqu'un qui veut se louer un logement. Ben, on va dire, ben, comme il fait des plaintes souvent au TAL, on ne va pas lui donner le logement.
Oui, puis tu sais, en ce moment, là, c'est épouvantable parce que là, ils demandent, c'est vraiment les gens les plus nantis qui peuvent avoir des loyers parce que là, les propriétaires demandent une enquête de crédit, ils demandent même le salaire. Et là, les gens se retrouvent pris, hein, parce que vous avez le droit de refuser, évidemment, parce que c'est des renseignements confidentiels, mais si vous refusez, ben là, il y a comme 40 personnes en ligne pour avoir le logement. Alors, et là, souvent, les propriétaires vont en profiter aussi pour augmenter substantiellement le loyer. Et si vous acceptez pas, il vous prendra pas. OK? Fait que, tu sais, ouais, c'est vraiment très difficile en ce moment. Donc, ce que je parle là, ça s'adresse davantage là, aux gens qui ont déjà un logement. OK? Okay? Donc, pour ce qui est des coopératives d'habitation, les gens qui sont en coop, donc ça, ça ne s'applique pas le 3,1% parce que vous avez déjà des taux préférentiels, ça dépend un peu, c'est comme un peu à part. Donc, vous n'avez pas vraiment le choix d'accepter l'augmentation, sinon, ben, vous devez quitter le logement. OK? Évidemment, dans le cas précédent, vous ne devez pas quitter votre logement si le propriétaire dit ben moi, c'est 100 $ l'augmentation, si tu n'acceptes pas, tu t'en vas. Ben non. Là. Si vous avez fait si vous avez écrit votre lettre comme prévu, ça n'arrivera pas. OK? Bon. Parce qu'il n'y a pas le droit de le faire.
Bon, maintenant, parlons de ces fameux travaux majeurs là, qui permettent d'augmenter un peu plus le loyer mensuel. Ouais.
Bon, ça aussi, là, ça peut être sujet à discussion longtemps. Donc, les travaux majeurs, ça veut dire que c'est une amélioration ou une réparation importante en majeur, ça le dit, dans votre logement. OK? Donc, si là, le logement d'à côté est rénové de fond en comble et que vous ne voulez pas toucher à votre logement, bien, vous n'êtes pas augmenté. OK? Donc, on parle, là, par exemple, de refaire une salle de bain, refaire la cuisine, tu sais, des murs, il faut que ça soit majeur.
Okay? On ne parle pas juste d'une petite couche de peinture, là.
Non, exactement. Puis ça, c'est, en fait, c'est une plus-value qui va augmenter la valeur de votre logement puis votre qualité de vie. Et là, il y a une liste complète sur le site Internet du TAL de c'est quoi les travaux majeurs.
OK.
Donc, et là, le propriétaire, c'est dans son droit de faire des travaux. Sa bâtisse à lui. Donc, il a le droit. Par contre, il doit vous aviser au moins 10 jours avant de commencer les travaux. OK? Et là, ça, c'est s'il n'y a pas d'évacuation nécessaire. Donc, par exemple, c'est sûr que c'est refait la cuisine, la salle de bain, bien, probablement que vous allez devoir aller habiter ailleurs pendant ce temps-là parce que ça ne sera pas vivable. Donc, à ce moment-là, il doit vous avertir encore plus d'avance. Et là, dans cet avis-là, il doit dire c'est quoi les travaux qu'il va faire, la date, évidemment, du début des travaux et l'estimation de comment ça va durer, par exemple, 2 semaines, 1 mois. OK? Et s'il y a lieu, ben, combien de temps vous devez sortir de votre logement. Et là, évidemment, ce n'est pas à vous de payer pour les frais de déménagement, d'entreposage, de loyer supplémentaire ou d'un logement temporaire. Donc, ça va être vraiment au propriétaire qui doit prévoir une indemnité, okay? Pour le temps où vous ne pouvez pas être dans votre logement. Par contre, vous n'avez pas le choix, comme j'ai dit. Donc, et vous devez donner accès là, à votre logement au propriétaire. Et par contre, il ne peut pas vous augmenter pendant la durée de votre bail actuel. Ça veut dire que s'il fait des travaux, admettons, votre bail est de juillet à juillet, s'il fait des travaux en août, ben, ça va rester le même montant pour l'année que vous aviez, donc 1 000 $. OK?
Parfait.
Donc ça, c'est important. Et évidemment, il doit vous laisser votre logement quand il a fini les travaux dans un excellent état de propreté. C'est pas à vous de tout remettre ça.
Ramasser le plâtre puis les taches de peinture partout, c'est pas...
Non, c'est ça, exactement.
On va aller à un autre sujet qui est important, puis le temps file. Fait qu'on va parler d'insalubrité.
Ouais, ça, c'est un problème aussi. Hein. On sait que donc les logements moins chers, donc les logements souvent de gens qui vont être des migrants ou qui vont être de la diversité sexuelle ou autres, les logements qui restent, souvent, c'est des logements qui vont être qui ne seront pas en bon état. OK? Donc, ça aussi, évidemment, vous avez des droits à ce niveau-là. Si votre logement menace là, sérieusement votre santé ou votre sécurité, là, on parle de moisissures, on parle de champignons, on parle de puces de lit, on parle de... OK, tout ça, bien, c'est... Ou de la vermine, là, des rats, toutes sortes de choses. Ou, par exemple, qu'un mur est défait puis que n'importe qui peut rentrer, la porte ne se barre pas. Bon, des choses comme ça. Évidemment, vous pouvez appeler au TAL et vous pouvez introduire un recours pour, dans le fond, briser votre bail, ça veut dire que vous pouvez vous en aller, puis obtenir là, une ordonnance. Et là, évidemment, si ça vous arrive, il faut documenter. Alors, prenez des photos. Si vous allez voir un médecin et qu'il vous dit que vous avez des problèmes au niveau respiratoire à cause de champignons, ben, votre rapport, OK? Si vous avez un avis, si vous avez fait venir un inspecteur, bien évidemment, le rapport d'inspecteur, que vous me suivez, parce que ça va vous être demandé. Bon. Et là, c'est ça. Puis dans le fond, avec le TAL, vous pouvez obtenir des dommages et intérêts. Puis vous pouvez aussi, sinon, avoir une diminution de votre loyer. Évidemment, là, il va falloir qu'il règle la situation aussi.
Pour conclure, la travailleuse sociale a toujours les numéros de téléphone à nous donner.
Oui, je vais vous donner, mais tu sais, c'est important, les gens ont peur, hein. Ont peur des représailles, ont peur de perdre aussi leur logement, parce que des fois, il y a des menaces qui sont plus ou moins claires de la part des propriétaires, puis on sait que la pénurie de logement, ça touche tout le monde. Donc, il y a des organismes qui peuvent vous aider, OK? Il y en a partout, des organismes qui sont spécialisés pour les personnes immigrantes, qui sont spécialisées pour les personnes de la diversité, etc. Et donc, des organismes en plus du TAL qui peuvent vous aider dans vos recours. Donc, le TAL sur Internet, il y a un outil de fixation des loyers. Il y a énormément d'informations. C'est super facile à consulter. Puis, si vous n'êtes pas Internet, ben, le téléphone, c'est 1-800-683-2245. Ça, c'est pour le TAL. Puis, sur Internet, ça se trouve très facilement, les organismes ou auprès des autres organismes que vous fréquentez déjà, eux autres vont être capables de vous donner l'information.
Marie-Claude Joannis, merci beaucoup.
Bien, ça fut un plaisir. Alors, go gang, laissez-vous pas faire. Vous avez des droits.
Eh bien, c'était l'épisode 137 de l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Un grand merci à tous nos invités et collaborateurs. Antoine Beaudoin-Gentès, Ami Simard, Georges Libéry, Dan Robichaud, Gengis Grenier et Marie-Claude Joannis. Pour nous suivre ou réécouter nos segments, rendez-vous sur nos réseaux sociaux ou sur le site de Canal M. Merci à l'équipe de recherche, Godéric Trobe et Marie Massé, ainsi qu'à Mathieu Tessier, qui est à la mise en onde. Merci également à la direction, qui nous aide beaucoup dans tout ce qu'on fait, Jean-Sébastien Laliberté et Marjorie Théodore. Moi, je m'appelle Denis Martin Chabot. Je suis animateur, réalisateur de cette émission. Passez une excellente fin de congé pascal.